Marie Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes donc sur Radio Zinzinex et vous écoutez l'émission Marie Nostrum. Cette émission est présentée et préparée par Raymond avec Fabrice à la technique. Donc aujourd'hui, c'est le 11e numéro de notre émission et nous allons nous intéresser à l'exposition semi-permanente, puisque c'est comme ça qu'elle est conçue, qui est ouverte au Mucem depuis la fin novembre de 2017 et qui se terminera en 2019, je crois.
2020,
mmh. Voilà. Et cette exposition s'appelle Connectivité. Donc nous recevons pour cette évocation Myriane Morel-Deldal. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes conservateur en chef du patrimoine au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, donc qu'on appelle le MUCEM, après avoir dirigé le Musée d'histoire de Marseille.
Oui.
Vous avez été commissaire de plusieurs expositions importantes et notables au MUCEM, en particulier donc Volubilis et Migration divine.
Oui.
Vous avez publié plusieurs études sur l'histoire de Marseille et de la Méditerranée. Nous vous avons invité pour la dernière exposition en date, donc Connectivité, dont nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes accompagné de Sylvia Amar González. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes donc responsable du département de la production culturelle du MUCEM.
Oui.
Vous êtes chercheuse en histoire de l'architecture contemporaine et historienne de l'art.
Tout à fait.
Voilà. Donc, les présentations sont faites. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de cette très belle exposition que j'invite à aller visiter, bien évidemment. Et donc, on va peut-être commencer par voir un peu quelques généralités concernant la thématique. Et donc, je vais commencer par le mot même de cette exposition, connectivité. Alors, pourquoi ce terme est employé? On aurait pu dire connexion, parce que les villes sont reliées entre elles. Pourquoi connectivité?
C'est moi qui réponds.
Oui.
c'est assez différent, je dirais, connectivité de connexion. Hein. Dans connexion, vous avez effectivement un certain nombre de choses qui sont mises en relation, un certain nombre d'éléments. On peut parler de villes qui sont en connexion les unes avec les autres. La connectivité, c'est un peu plus que ça. La connectivité, c'est une capacité, c'est une forme de... C'est une action, déjà, en soi, la connectivité. Et c'est surtout des routes, des circulations, des hommes. Ça parle beaucoup de l'échange et de tout ce qui peut circuler, en réalité, la connectivité. Et c'est vraiment une capacité à se mettre en connectivité. Et dans cette histoire qu'on a voulu sur le temps long, hein, de la Méditerranée, c'est très important de voir à quel point c'est un acte volontaire d'être en connectivité avec une ville, avec des villes, pour créer justement des réseaux de relations. C'est une forme de connexion augmentée, si on voulait parler en langage on va dire numérique.
Oui, la connectivité, c'est donc le mouvement, finalement. C'est
oui,
ça. C'est
davantage.
Le mouvement. Mmh. Voilà, c'est le mouvement, comme on peut le voir encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Mmh. Le mouvement, non seulement commercial, mais le mouvement des hommes, d'autant plus augmenté dans ces temps-ci. Et donc, ce mouvement entre les différentes parties de la Méditerranée, moi, il m'a semblé que ça résumait assez bien les objectifs premiers du MUCEM. Et je me demandais s'il ne s'agissait pas là de l'évolution d'une réflexion propre au MUCEM, qui va s'ancrer un peu plus sur le mouvement, au contraire de la ruralité qui est assez la ruralité qui est l'autre exposition permanente qui est finalement assez on va dire statique. Mm-hmm. Et là on est sur quelque chose de plus comme vous l'avez dit tout à l'heure, de plus qui bouge beaucoup plus.
Oui, qui est dans la recherche de la... Comment dire, vraiment dans la recherche de la connexion, pas seulement en termes de sujet, mais aussi de montrer qu'on est dans que la réflexion, elle évolue très vite, et pas seulement aujourd'hui, qu'elle a toujours évolué, et que c'est le mouvement engendré par le flux des circulations des hommes et des idées qui font que, effectivement, un sujet se forme et qui continue à évoluer. Donc c'est plus ça dont on veut rendre qu'une thématique descriptive sur un sujet à proprement dit.
Oui, donc ça illustre bien donc cette volonté du MUCEM de montrer le mouvement.
Alors nous, on a essayé de faire une exposition qui corresponde à ce qu'on sent de l'esprit MUCEM qui s'est forgé depuis son ouverture, bon, un peu en amont bien sûr, à travers un projet scientifique et à travers un projet scientifique global. Mais ce projet, il existait sous la forme d'une note d'intention. Il fallait ensuite le concrétiser sous la forme d'exposition. Alors c'est pas une forme unique, bien évidemment, parce que je pense que toutes les expositions qu'on programme, elles tentent de s'approcher au plus proche et d'être dans la dynamique de ce projet scientifique. Mais ce projet scientifique lui-même a déjà évolué. Il a connu une deuxième édition depuis l'ouverture du MUCEM. Donc c'est un petit peu normal qu'entre les expositions d'ouverture, si c'est ça à quoi vous voulez faire allusion, et les expositions qu'on produit aujourd'hui, il y ait c'est pas forcément un décalage, mais je pense que c'est une évolution juste et tout à fait normale. Ce qui aurait été dommage, c'est qu'on ne la constate pas aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Parce que c'est quand même un musée vivant, le MUCEM.
Tout à fait. On essaye, en tout cas.
Oui, tout à fait. Ça rentre.
On peut compléter également cette présentation par le fait que le côté ruralité, c'est quand même... On reste très brodélien. C'est quand même le socle physique de cette Méditerranée. Le tome 1 de Brodel, c'est quand même d'abord tout ce qui est le sol, le climat, etc. Et donc, on répond aussi, et avec les collections du MUCEM, les collections propres, initiales du MUCEM, de son origine, on répond aussi... au substrat d'abord, et puis une partie de l'histoire après. Et c'est celle de Brodel, effectivement, qu'on a choisie avec la Méditerranée de Philippe II, parce que c'est une période exceptionnelle où tout va basculer dans cet équilibre méditerranéen. Donc on est complètement raccord aussi avec cette première partie.
Mmh. Oui, et puisque vous parliez des collections, là... Oui. Juste un petit mot sur ce que vous avez récolté pour cette exposition avant de parler de son contenu. Vous êtes adressé un peu à tout ce qui peut compter de musées, d'archives en Méditerranée.
On a effectivement sollicité beaucoup de musées en Méditerranée et dans la grande Méditerranée, puisqu'on a beaucoup d'objets qui viennent de Lisbonne, des musées de Lisbonne qui ont été très généreux, en Espagne, en Italie, en France, essentiellement, et en Allemagne également. Donc toute la partie du pourtour nord de la Méditerranée. Et nos collègues ont été extrêmement intéressés par notre démarche et nous ont d'autant plus... prêter et même déposer des œuvres pour ces 3 années de présentation, qu'ils ont tous adhéré à ce projet de réflexion sur la Méditerranée de Philippe II. C'est assez jouissif de constater que nos collègues tout autour du pourtour méditerranéen sont encore très brodéliens comme nous-mêmes. Donc on parlait la même langue et c'était très très productif et producteur de propositions, d'échanges, de richesses qui se ressentent à travers les objets qu'on présente. Oui,
oui, vous avez travaillé en collaboration finalement avec beaucoup d'institutions.
Absolument, oui.
Ah oui, c'est vraiment le rassemblement de pièces exceptionnelles. Vous pourrez peut-être
très
nous en citer quelques-unes,
oui.
Tout à l'heure. Alors donc, le contenu, on va le voir immédiatement après, mais on va quand même dire que cette exposition, elle porte sur 9 grandes villes.
Grande ville.
Métropole, Villepole,
Villemonde. On introduira des nuances après.
Voilà, c'est ça.
Ce sont toutes des villes et toutes des ports.
Voilà, et toutes des ports. Alors, il y en a une qui est quand même un peu particulière. On en parlait hors antenne avant de commencer l'émission. C'est le Caire, qui est un port, on va dire, un port fluvial, aux activités certes importantes, mais qui n'a rien à voir avec les activités maritimes, proprement maritimes.
Ah, je ne suis pas d'accord.
Vous n'êtes pas d'accord avec
moi. C'est un grand port. Grand axe de circulation. C'est ça qu'il faut remarquer par rapport à nos sujets. Et puis le Caire, on le traite dans sa dimension de mégapole et dans sa dimension de territoire expansif, expansionné, en expansion. Donc c'est un autre aspect que celui de... Ce sont des collectivités internes ou des lacunes de connectivité interne qui font cette ville, et c'est ça que nous analysons en lien avec les quatre autres villes analysées pour le contemporain.
Mmh. Est-ce que, c'est pas une question piège, hein, mais est-ce que c'est la ville la plus étendue,
En Méditerranée, probablement.
Probablement, ouais.
Les deux mégapoles de Méditerranée sont effectivement Le Caire et Istanbul, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi, mais les mégapoles d'Amérique latine, de Chine et d'Inde, et même d'Afrique, sont encore plus grandes.
D'accord, ça c'est bon. Donc pour la Méditerranée, ça fait partie donc des villes les plus étendues.
Oui.
Et donc, il y a une ville qui présente deux fois, c'est bien sûr Istanbul.
Oui,
voilà. Quel est le sens justement de cette présence deux fois ?
Istanbul, pourquoi deux fois ? Mais une fois dans la partie historique, là, dans la Méditerranée de Brodel, parce que c'est déjà une mégapole. Au XVIe siècle, elle fait déjà 250 000 habitants. Donc on est dans une ville extrêmement étendue et extrêmement peuplée pour la période en question. Aujourd'hui aussi, Istanbul est une mégapole, une des deux grosses mégapoles de la Méditerranée aujourd'hui. Donc pour les deux sujets, c'est une ville capitale et c'est une ville qui continue à représenter l'expansion maximum d'une cité en son temps et en plus répartie sur deux continents avec des problèmes spécifiques pour le contemporain en particulier. Ça, on reviendra dessus.
Si vous voulez bien, on va faire une petite pause musicale. On va écouter un flamenco. Arabo-andalou, chanté et joué par Abderrahmane Abdelmoumen et Sergio Gomez Delgado. Voilà, donc cette chanson est intéressante, en tout cas le personnage principal, Abderrahmane Abdelmoumen, dans la mesure où il est vraiment dans la liaison des musiques. Il joue avec un Espagnol, il fait également partie d'une association en Italie, qui s'appelle Multifrazione Progetti, sous la direction de Luigi Cinque, et il a enregistré un certain nombre de disques. Il a également enregistré un disque qui s'appelle Tangerine Café avec un Italien, un Sénégalais, un groupe de fans marocaines et une Indienne. Donc il est vraiment dans le mélange des cultures, et c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il a même enregistré quelque chose avec des Corses. Donc c'est quand même une volonté de rassembler, de mélanger les musiques. Alors, nous parlions justement d'Istanbul, qui se trouve donc dans les deux secteurs de votre exposition. Et donc, entre les deux, puisque on est d'un côté dans la période brodélienne 16e, 17e, et puis des villes contemporaines. Alors, on a sauté 18e, 19e, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Pourquoi est-ce qu'on saute cette période?
Bien, c'était un parti pris hein, de poser le temps long comme étant un temps nécessaire à la réflexion et pour pouvoir aborder aussi des prolongements de la pensée de Braudel, puisqu'on ne voulait pas simplement s'y référer, mais on voulait aussi voir comment elle s'incarnait au quotidien. Et on a pu vérifier effectivement sur la période contemporaine qu'elle est toujours vivante et active, cette pensée, non seulement parce qu'il y a des penseurs et des chercheurs qui ont prolongé sa pensée et qui la développent et qui en font un matériau de référence et de recherche au quotidien, mais parce qu'ensuite, dans des phénomènes de tout simplement réels, de la vie et de l'urbanité en général, on retrouve des fils qu'on peut tirer en termes d'analyse. Donc, traiter 4 siècles sur 1200 m², c'était compliqué. Déjà, en traiter 2, c'était un bon défi. Donc, globalement, effectivement, nous traitons 16e, 17e sur la partie historique qui avait été évoquée précédemment. Et la partie contemporaine, on revient au tout début du 20e siècle où se posent les bases un peu de tout ce qui va être l'urbanisme et l'architecture du 20e siècle et qui est encore déterminant aujourd'hui, bien évidemment, en repartant du Siam 30 du Patrice et de ce bateau rempli de Le Corbusier, de Laszlo Molinagy et tous les plus grands architectes et artistes et penseurs du moment qui s'embarquent en Méditerranée, qui partent de Marseille et qui vont écrire la Charte d'Athènes. La Charte d'Athènes qui va donner naissance à ce qu'on va être les grandes pensées en architecture moderne sur l'habitat, l'urbanisme, qui va poser des fondements assez actifs encore aujourd'hui. Effectivement, ce gap de 2 siècles, il s'explique aussi parce que, et ça, Serge Krasinski le dit très bien dans le dispositif d'entrée, et puis qu'on a une vidéo qui permet d'introduire à la fois la partie historique et la partie contemporaine, donc il parle pour les deux aspects, et qui explique que au moment où on sort de la Méditerranée, qu'on trouve le chemin par le détroit de Gibraltar, parce qu'on y est obligé, parce qu'il faut contourner l'Empire ottoman et ouvrir une nouvelle route de la soie, eh bien, à ce moment-là, on change de paradigme. Et tout d'un coup, on va découvrir le nouveau monde. Et ce nouveau monde, ce sont 2 siècles assez fondamentaux qui sont à eux-mêmes l'objet qui nécessiteraient des mètres carrés d'exposition pour pouvoir les aborder d'une façon qui soit correcte. Donc on fait le pari de faire ce saut. Et ce saut fonctionne assez bien parce qu'en fait, on retombe sur des choses qui sont assez déterminantes, qui se parlent d'une période à l'autre. Et d'ailleurs, en termes de scénographie, autant les deux parcours sont, on va dire, séparés, mais ils ne le sont pas vraiment puisqu'on crée des points de vue, des fenêtres, des passages, pour qu'à tout moment, on puisse être dans l'histoire et être dans le présent. Et voir à quel point il y a une continuité, une permanence de certains phénomènes.
Oui, effectivement, quand on se promène dans l'exposition, on peut passer assez facilement d'un côté à l'autre.
On a voulu cette fluidité sur le temps historique pour montrer qu'il y a des questions d'histoire, il y a des questions de contemporanéité. Et on a voulu aussi un espace intermédiaire, qui est un espace dans lequel on projette des films, où entre les deux, on a cette question de la mémoire aussi. La question de la mémoire, il y a la grande histoire, mais il y a aussi la petite histoire, l'histoire des familles, l'histoire des gens qui ont fait la guerre et qui se rappellent et qui se souviennent. Et donc on a un film très très beau qui est de Jorej et Hadji Thomas, qui sont deux artistes, deux producteurs de cinéma libanais, qui est sur la ville d'Izmirne et qui est un film magnifique. Donc il faut prendre le temps de le voir, mais qui raccroche ces histoires familiales à la grande histoire, à la grande guerre notamment, et qui montre un peu toute cette dissémination, toute cette migration en Méditerranée. Et cette migration, donc elle a vraiment, comment dire, on la montre à plusieurs moments, pas de façon, ostentatoire. Voilà, on la montre plutôt à travers des œuvres et à travers des artistes qui donnent leur point de vue. C'est plutôt la partie historique, elle s'exprime, contemporaine, elle est plus, on a voulu délibérément la montrer beaucoup plus à travers des regards d'artistes.
Oui, donc globalement quand même, le guide dans cette exposition, c'est Fernand Braudel, bien sûr.
Oui,
c'est lui
qui
reste. C'est presque le personnage central. de l'exposition.
C'est... Lui-même disait que c'était la Méditerranée, son personnage central. Donc on reste en Méditerranée.
Voilà, c'est le père de l'exposition, finalement. Oui. Alors donc, Fernand Braunel, la Méditerranée, le monde méditerranéen, sa thèse, et puis l'autre ouvrage, il en a écrit beaucoup d'autres, hein, La Méditerranée, espace et histoire, où on trouve à peu près les éléments d'explication et les supports si des gens veulent prolonger un peu ce que votre exposition. Alors on va essayer de voir un petit peu les thèmes qui sont abordés d'abord dans la partie historique, hein, et puis on reviendra peut-être sur la partie plus contemporaine. Alors sur la partie historique, on est donc au XVIe et XVIIe siècle dans l'équilibre des deux empires. C'est donc l'Empire des Habsbourg et l'Empire ottoman.
Oui.
Et donc on a là deux empires qui se regardent, qui s'inspectent, qui se combattent. Comment se fait l'équilibre entre ces deux empires à travers votre exposition? Quels éléments, quelle partie de votre exposition, la partie historique, montre cette difficulté de l'équilibre entre ces deux empires?
Mais notre lien, notre connexion, notre connectivité passe par les villes fondamentales que nous avons choisies, parce que c'est assez audacieux de traiter presque deux siècles d'histoire méditerranéenne entre deux empires aussi importants et d'en faire quelque chose sur quelques centaines de mètres carrés pour essayer de faire comprendre en exposition par des objets, cette histoire politique et humaine de cette période. Donc on a fait des choix clairs, on a choisi pour les deux empires trois cités en lien entre elles, dans l'Empire ottoman et dans l'Empire des Habsbourg. Et en même temps, ces trois cités qui forment une sorte de paquet ont elles-mêmes des relations avec les trois autres cités, ce qui fait que l'ensemble du territoire maritime, essentiellement, est complètement en connexion, puisque tout est en lien, non seulement par la surface de la mer, mais aussi par des liens à la fois de pouvoir, de commerce, et par des projets qui sont à peu près tous les mêmes pour chacun, c'est-à-dire la maîtrise du commerce, en gros, des soieries et des épices. C'est le grand enjeu de cette période 16e-17e, la conquête au plus rapide et au moins cher de ces valeurs de l'époque, de ces représentations des marchandises les plus coûteuses et les plus recherchées. Donc un développement et une ingéniosité pour être les premiers sur les terrains de ces marchandises.
Et est-ce qu'on peut dire que si cette connectivité se met en place, si le commerce devient une donnée incontournable à la Méditerranée, c'est aussi grâce à une amélioration des techniques de navigation à partir du 15e, 16e siècle?
Oui, les bateaux sont maîtrisés, les flottes à la fois commerciales et de guerre sont bien maîtrisées, mais c'est pas vraiment le critère fondamental, en fait. Les critères fondamentaux sont l'organisation de ces empires eux-mêmes, leur véritable projet, c'est-à-dire savoir ce qu'ils veulent, comment ils veulent l'organiser, l'autonomie de certaines de ces cités, parce qu'il y a trois grandes cités autonomes là-dedans, en particulier Venise et Gênes avant tout. Venise a fait le choix d'être au service des Ottomans, tandis que Gênes est au service des Habsbourg. Ce sont les deux pivots qui se regardent d'un bout à l'autre de l'exposition et qui sont les clés de compréhension de ces équilibres, qui sont plutôt des équilibres parfaitement huilés. Ce sont des systèmes pensés qui sont bien analysés, bien sûr, mais qui étaient bien connus des partenaires eux-mêmes. Donc, ce qui est intéressant dans cette période qui a été choisie par Braunel, nous avons suivi cette période parce que c'était celle qu'il a démontrée, mais qui était déjà très exceptionnelle, c'est-à-dire que c'est une période qui va être à la fois aboutie et rapidement obsolète. On est dans l'expansion maximale d'un système, juste avant son obsolescence. Pourquoi ? Parce qu'on a un intrus dans l'histoire qui est la découverte du Nouveau Monde. La volonté effectivement exprimée par l'Empire des Habsbourg et en particulier l'Empire du Sud, c'est-à-dire l'Espagne, Charles Quint et Philippe II, son fils, de devoir contourner la puissance ottomane, c'est-à-dire de trouver de nouvelles routes. Donc c'est pas nouveau, depuis longtemps on cherche de nouvelles routes, mais oui, on n'avait pas osé se lancer. Mais si on ose se lancer, c'est pour des raisons moins de développement de la maîtrise de la navigation, en particulier avec les caravelles, mais davantage par un développement de la volonté de puissance d'Isabelle la Couette catholique, donc qui est héritière de l'Empire des Habsbourg, en particulier de l'Espagne à cette époque, qui considère que elle a Dieu avec elle, puisqu'elle vient de reprendre les territoires de l'Espagne ibérique, Portugal et Espagne, et que donc c'est le moment de se lancer. Il y a aussi beaucoup d'argent, et donc on va se lancer pour construire beaucoup de bateaux pour faire cet essai de contourner l'Empire ottoman. Et donc il y a eu des tentatives auparavant, il y a des tentatives nombreuses à cette époque-là, et toutes ne réussissent pas, mais il se trouve que Christophe Colomb tombe sur un continent qu'il pense être les Indes, être arrivé au but et qui est l'Amérique. C'est le début d'un développement complètement différent de la recherche de ces routes et qui, petit à petit, va déséquilibrer cet équilibre bien huilé des deux empires, ottomans et Habsbourg. Et en les déséquilibrant, on ouvre une nouvelle voie et on ouvre la globalisation. Donc on sort de la flaque méditerranéenne et on rentre dans un nouveau monde au sens politique et économique du terme.
Et donc ces deux ports, Venise et Gênes, qui étaient donc un peu les avant-postes et les lieux de distribution situés d'ailleurs dans la partie médiane de la Méditerranée, qui est quand même une position particulièrement favorable. C'est pas pour rien si ce sont ces deux villes d'ailleurs ces deux ports qui sont là présents dans votre exposition, puisque ils sont les distributeurs des produits qui arrivent. Et donc ces deux villes vont connaître, à partir du moment où la Méditerranée s'ouvre, ou plutôt on va ailleurs qu'en Méditerranée, vont connaître des difficultés importantes, quoi. Vont perdre en tout cas leur place.
Pas complètement. Pas aussi radicalement que ça. Disons que Venise et Gênes, qui sont très concurrentielles et quasiment postées dans le même environnement géographique et pour être toutes les deux les partenaires des Ottomans, Venise va effectivement un peu perdre parce qu'elle est loin de cette circulation, de cette possibilité de circuler vers le Nouveau Monde. Et elle va plutôt être associée au contournement de l'Afrique et la découverte de circuits aussi terrestres, en dehors des circuits maritimes, via l'Empire ottoman. Alors que Gênes est mieux positionnée parce qu'elle garde la faveur des Habsbourg par le fait que les Habsbourg ont colonisé l'Amérique centrale et que l'or et l'argent qui vient du Nouveau Monde est géré par les Génois. Les Génois sont les banquiers des Habsbourg. Et donc, plus longtemps que Venise, Gênes garde cette puissance en Méditerranée, reprend un peu sa revanche parce qu'elle l'a été plus tardivement. Et elle est beaucoup plus présente encore au XVIIe siècle, alors que Venise est passé plutôt dans le secteur de la ville des artistes. Elle a perdu cette puissance économique. C'est une très belle ville, très enrichie. Et elle devient plutôt une ville d'artistes et moins une ville de commerce et une ville politique.
Et elle perd un peu sa fonction. Quoi.
Cette fonction-là.
Je vais vous faire écouter une petite musique assez bizarre. C'est la Marche turque de Mozart, qui est interprétée de façon un petit peu comique, à la manière des tziganes des Balkans.
Thank you.
revenons un peu à votre exposition. À votre exposition. J'aurais aimé que vous m'évoquiez, concernant justement ces deux villes dont nous parlions il y a un instant, Venise et Gênes, des éléments de votre collection, de votre exposition particulièrement remarquables. Alors moi, j'ai repéré donc ce fameux étendard de Lépante, là, qui a une histoire extraordinaire, que j'ai lu en partie dans votre catalogue. Alors j'aimerais que vous racontiez cette histoire, parce que c'est quand même intéressant.
Et puis justement, c'est un objet qui fait tout à fait le lien entre Gênes et Venise. On l'a positionné dans l'espace de Venise, devant la présentation de la ville de Venise, parce que Venise est fondamentale dans la relation entre les Ottomans et les Habsbourg. Et en particulier à cette époque-là, à cette période-là, en fait, la politique des Habsbourg est menée par les papes depuis Rome. Et que les papes n'ont pas cessé depuis le début du XVIe siècle d'essayer de faire signer des traités entre les Habsbourg, les alliés des Habsbourg, les chevaliers de Malte, les villes indépendantes que sont Venise et Gênes, entre autres, et différentes autres alliés. Et Venise a toujours refusé de signer un traité commun à ce qu'on appelait la chrétienté, destiné à s'opposer sur la mer au cours d'une bataille contre les Ottomans, parce qu'elle n'avait pas intérêt à perdre l'objet de son bénéfice et de sa position, et qu'elle ne voulait absolument pas se mettre du côté des chrétiens pour entrer en guerre contre les Ottomans. Donc Venise a toujours refusé de signer un traité, et sans la puissance de Venise et la puissance navale de Venise, il n'était pas pensable à l'ensemble des alliés de la chrétienté de pouvoir battre les Ottomans, qui étaient supérieurs sur la mer depuis longtemps et bien connus, bien redoutés avec leur flotte. Il se trouve que un peu avant 1570, les Ottomans ont finalement décidé d'agresser l'île de Chypre, qui était une possession vénitienne. Et à l'occasion de ces batailles, ont tué autour de 20 000 chrétiens, dit-on. Ce qui fait que la pression a été très forte à Venise, pression des doges et de la population pour demander à Venise de s'opposer, de marquer son opposition aux Ottomans pour une fois, pour réconforter les populations vénitiennes des îles méditerranéennes et ne pas donner l'impression que finalement elles étaient tellement aux côtés des Ottomans que Venise était incapable de défendre ses propres populations et ses propres possessions. C'est à la faveur de cet événement-là que Venise a fini par signer une Sainte Ligue qui a conduit en 1571 à la célèbre bataille de Lépante, dont il a été dit par les historiens, et c'est une analyse de Brodel très pertinente sur la question de la longue durée, il a été dit qu'elle avait signé cette victoire chrétienne à Lépante contre les Ottomans, avait signé la fin des Ottomans, ce qui est complètement faux, c'est-à-dire que c'est un mythe qui a été médiatisé par les Habsbourg pour faire croire que c'en était fini des Ottomans et que les chrétiens étaient victorieux sur la Méditerranée. Donc c'est totalement faux, on s'aperçoit bien que c'est un événement, ça fait partie de la trilogie brodélienne, l'événement, le temps présent et la longue durée. C'est un événement qui vient s'ajouter au reste, mais qui n'est lisible que dans la longue durée, et ce n'est pas l'événement bataille de Lépante qui fait la fin des Ottomans, et on verra très bien au lendemain d'ailleurs de la bataille de Lépante que les Vénitiens vont retirer leur signature et à nouveau retourner dans le giron des Ottomans pour reprendre leur commerce avec eux. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que cette bannière est une bannière ottomane prise par l'amiral génois de la flotte de Lépante, un amiral descendant du grand Andrea Doria, mais qui est son petit-neveu Giovanni Andrea Doria, qui l'a gardée, récupérée, suite à la victoire des chrétiens, dans son palais à Gênes, le Palazzo dei Principi, qui est toujours une possession personnelle de la famille des Doria, dont le maire actuel est toujours un Doria, d'ailleurs, et qui a été redécouverte à la faveur de nos échanges avec nos collègues autour de la Méditerranée, lorsqu'on a fait justement des prospections auprès des interlocuteurs qui pouvaient nous accompagner dans ce projet. Et il se trouve que la responsable scientifique des collections du Palazzo Principe nous a dit « on a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser pour votre exposition ». C'est une bannière qui a été conservée par la famille Doria et qui a été prise à l'épante. Donc vous avez là, donc nous avons convenu, et ça a été long, mais tout le monde a été de très bonne volonté, aussi bien nos collègues italiens, le ministère de la Culture, la surintendance de Gênes, enfin c'était une très très belle histoire. Nous avons restauré cette pièce, nous la présentons au public, et nous avons donc pu exhumer un objet archéologique. C'est une bannière prise en 1571 à la bataille de Lépante, qui a été fabriquée probablement dans la deuxième moitié du XVIe siècle dans les ateliers ottomans navals et militaires d'Istanbul. Donc on a le décor
et
c'est une pièce presque unique. Il y a encore quelques pièces de ce genre dans les églises de Gênes, des petits étendards qui probablement viennent justement de trophées de la bataille de Lépante. D'autres pièces aussi au musée de Dresde en Allemagne qui ont été conservées, j'imagine, par le truchement des armées qui ont remonté ces pièces dans l'Empire des Habsbourg et qui sont très caractéristiques. L'étendard lui-même est caractéristique effectivement de la représentation d'un étendard ottoman avec des croissants, des étoiles et la célèbre épée à double pointe, l'épée Zulfikar, qui est emblématique de la représentation des Ottomans sur la mer, sur leurs bateaux militaires et leur flotte.
Ah, c'est une belle histoire, ça.
Ouais, on en est tous très heureux, très fiers et c'est très émouvant aussi.
Hein. Ah oui, bien sûr, c'est un témoignage direct de cette bataille de Lépante, ce qui est quand même, il ne doit pas y en avoir tant que ça.
C'est pas rien, on est très fiers.
C'est extraordinaire, ça. Oui. Et donc, sur ces villes, parce qu'on va bientôt passer aux villes contemporaines, bien sûr, sur ces villes, donc, est-ce que l'ouverture marque un tournant dans leur histoire? Est-ce que l'ouverture de la Méditerranée, ou en tout cas le changement d'orientation des grands mouvements économiques qui vont s'orienter vers l'Atlantique, est-ce qu'ils ont une influence sur l'ensemble des ports de la Méditerranée à ce moment-là?
Ils ont une influence déterminante, parce que la Méditerranée est décentrée. Et en tout cas, du coup, l'Empire des Habsbourg est décentré. Il n'avait presque pas de pouvoir, en fait, en Méditerranée à cause de cette mosaïque qu'est cet empire. Ce n'est pas un territoire continu. Mais tout d'un coup, cet empire se trouve aussi en Amérique. Elle a des comptoirs tout le long des côtes de l'Inde, au Japon. Donc on a une espèce de décentrement de cet empire et une autre vision des choses. On n'est plus du tout, la Méditerranée n'est plus l'unique monde et le centre du monde. On est rentré dans une globalisation, et le rôle très important de Séville, qui est sur le Guadalquivir et sur l'Atlantique, et de Lisbonne, va sceller ce décentrement, précisément. Et donc, c'est de Lisbonne que partent les marins portugais qui vont découvrir et installer les comptoirs portugais en Inde, au Japon. Et donc, on va avoir cette ouverture atlantique entraîne la globalisation.
Alors, puisque vous parlez du Japon, je vais sauter dessus, parce que j'ai vu que dans votre exposition, il est fait référence aux tentatives d'évangélisation du Japon.
Oui, oui.
Alors, il y a des choses peu connues,
des pièces
exceptionnelles.
Les trois saints, les trois sculptures de saints, qui sont trois Japonais représentatifs, effectivement, des martyrs du Japon, qui se sont développés suite à la propagation de l'évangélisation au Japon par les missionnaires jésuites, par les dominicains, les franciscains, mais surtout les jésuites qui sont bien représentés dans l'exposition. Et donc effectivement, cette plongée profonde jusqu'au bout du monde, avec cette volonté des Habsbourg de propager non seulement leur empire, d'agrandir leur empire, mais à chaque fois de propager la foi chrétienne. Et Philippe II, il faut bien le dire, est avant tout un militant chrétien plus qu'un grand seigneur d'empire. Parce que c'est ce qui l'intéresse, il est un peu obsédé par cette histoire. Et donc, c'est vrai que pour un pays petit comme le Japon, le développement du christianisme qui a pris très vite chez les paysans a troublé les seigneurs japonais qui l'ont très vite interdit parce qu'ils ont bien compris que ça serait une perte de leur autonomie. Et donc, le Japon s'est refermé très vite après cette ouverture au XVIe siècle. Et on a justement ces saints japonais ont été sculptés et béatifiés très vite et sculptés de façon à être connus et à rappeler au reste du monde que le christianisme allait jusqu'au bout du monde. Et c'est une manière de faire connaître la puissance de la chrétienté par le développement de ces sculptures qui étaient promenées dans les villes chrétiennes à l'occasion des semaines saintes. Donc on a un développement de ces sculptures. Et ces sculptures sont très belles, les grandes sculptures de cette époque, de grands artistes sévillants, Juan de la Mesa et Montañés, qui ont eu du mal à représenter des Japonais parce qu'ils n'en avaient jamais vu. Et donc vous avez vu que leur visage est très très peu oriental. Le plus proche est ce personnage de Kisai qui est un petit peu les yeux bridés. Mais qu'on a du mal, si on ne le savait pas, si on ne connaissait pas l'histoire, on a du mal à comprendre que c'est un Asiatique. Mais ces sculptures ont été retrouvées aussi un peu par ce travail de fond qui a été fait entre les chercheurs et entre nous-mêmes avec nos collègues, là en l'occurrence du Musée des Beaux-Arts de Séville, qui étaient intéressés par le propos, par le sujet, et qui ont été amenés à nous proposer ces œuvres qui étaient enfermées dans une réserve très très peu accessible et qui était presque oublié. Là aussi, c'est une renaissance de ces œuvres et nous sommes très heureux aussi d'avoir contribué à leur restauration et de les faire connaître. Ce sont vraiment des échanges mutuels entre nous-mêmes, à titre professionnel, et nos collègues qui nous ont apporté la connaissance de ces œuvres et nous, en échange, nous les offrons la connaissance en les exposant et tout le monde y trouve son compte et on en est très heureux également.
Et oui, c'est là où on voit finalement que la mise en place d'une exposition, c'est un travail de chercheur.
Oui, absolument.
c'est absolument ça qui est extraordinaire. Oui. Oui,
y compris pour la partie contemporaine dont Sylvia va vous parler, on a aussi mis en place un échange avec l'École d'architecture de Marseille. Et là, on a développé un échange aussi avec les chercheurs autour de ces quatre villes, ces quatre mégapoles et métropoles.
Alors un petit peu de musique, de la musique ottomane du XVIIe siècle. Ce sont des morceaux qui ont été transcrits dans le livre de la science musicale par quelqu'un qui s'appelle Dimitri Cantemir, qui est donc un prince moldave, musicien, philosophe, musicologue, etc., qui a transcrit plein d'œuvres instrumentales du XVIe et du XVIIe siècle, qui sont disponibles sur un album qui s'appelle Istanbul. Voilà, qui est mis en musique et dirigé par Jordi Savall, qui est lui aussi un chercheur, un musicologue bien connu, voilà, et qui chante avec son groupe Hesperion 21. Bon, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Zinzine et que vous écoutez l'émission Mare Nostrum qui est consacrée à l'exposition du MUCEM qui s'appelle « Connectivité ». Alors après avoir parlé donc de ces ports du XVIe et XVIIe siècle en Méditerranée, nous allons aborder la deuxième partie de l'exposition qui est plus brève, qui est moins documentée en pièces muséographiques, on va dire. Avec en particulier donc en vous posant Sylvia Margonzalès les questions maintenant concernant ces villes contemporaines. Alors la première chose qui m'a marqué en rentrant dans la partie contemporaine, c'est que la muséographie change.
Elle change volontairement, bien sûr.
Oui, bien sûr.
On a voulu la période historique très claire, très bleue, très flottante. Globalement, on a cherché à avoir le bleu du ciel, hein, tout simplement. Et pourquoi ? Parce qu'en général, l'histoire est souvent montrée dans des tons très très sombres en muséographie. On a l'impression que tout est éteint, que tout sort des caves, etc. Et nous, on s'était dit que cette histoire, on voulait la montrer au grand jour. Et donc, on a voulu quelque chose de très lumineux, dans lumière de jour, dans la limite de ce qui est possible dans un musée, avec des objets qu'on doit conserver et que l'on doit montrer à des niveaux de lumière qui sont tous régulés, bien évidemment. Mais quand même, le fait qu'on soit dans ce bleu du ciel en font un peu des cités abstraites. Et effectivement, ce sont des cités qui n'existent plus en tant que telles aujourd'hui. Donc, on a voulu les tirer un peu vers une forme d'abstraction, d'une certaine manière. Et puis la partie contemporaine est effectivement plus traitée dans les gris anthracite, hein, dans une couleur un peu plus sombre. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a des porosités, il y a des points de vue, il y a des passages entre les deux. Et notamment, vous verrez qu'on a poussé, on a essayé en tout cas de pousser la subtilité jusqu'à faire que les typographies soient traversantes. C'est-à-dire quand on a des textes dans la partie historique, elles sont de couleur gris anthracite. Et quand on a des textes dans la partie contemporaine, ils sont de couleur bleu ciel. Bon, ça y est, peut-être que nous qui le voyons, mais quand même, la nuance est notable. Et alors oui, pourquoi ? Non pas parce que le contemporain est plus dur, mais parce qu'effectivement, on voulait marquer cette rupture. Sur la partie documentation, alors c'est peut-être moins visible en termes d'objets exposés, mais vous avez sur votre gauche, quand vous rentrez, un mur qui est extrêmement documenté, qui a fait l'objet d'un travail très précis qu'on a confié à un historien de l'art, un historien de l'architecture, pardon, qui est Jean-Lucien Bonillo et son groupe de recherche, le Grave, qui est de retracer les grandes étapes de l'architecture et de l'urbanisme au XXe siècle. Donc il part effectivement du début du siècle jusqu'à la période contemporaine avec des pistes de réflexion et d'ouverture. Et il aborde cette histoire d'une façon qui est assez intéressante. C'est un peu une histoire alternative de l'architecture. On la raconte jamais tout à fait comme ça. On sait que nos architectes modernes sont allés construire dans nos colonies. On va le résumer comme ça très rapidement. Mais ce qu'on raconte moins, c'est que nos architectes eux-mêmes ont ramené des influences sur la côte nord. Et donc ce mur montre à la fois les courants d'idées, les projets réalisés, les projets non réalisés, et ce rapport d'influence. Donc on a globalement une rive nord et une rive droite de la Méditerranée, une rive sud, pardon, et elles se parlent, en fait. Alors elles se parlent avec des moments de tension, avec des moments d'exacerbation, avec des moments de recherche, avec des choses ratées, des choses réussies, mais quand même, on voit ces retours d'influence. Et là, j'invite vraiment les visiteurs, en tout cas les personnes qui sont intéressées par ces sujets-là, à venir grappiller un petit peu des informations. Il ne faut pas lire le mur dans son entier. Le mur, il montre la masse de choses qui se sont passées. Mais on peut, au fil des visites, attraper un projet et dire « Tiens, qu'est-ce que c'est ça ?» Et voilà, et avoir cette lecture. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on a voulu pour la partie contemporaine, parce qu'on est proche des chercheurs, effectivement, mais on oublie souvent que les artistes sont des chercheurs, c'était de on peut pas, c'est très compliqué d'asséner des vérités sur une époque sur laquelle on a peu de recul, et d'avoir la même typologie d'analyse. Donc on s'est dit, changeons le point de vue. Quel est le point de vue de l'artiste sur la ville aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il nous donne à voir en termes de données, on va dire, d'actualité, mais que ce soit des données économiques, sociologiques, tout autant que des données sensibles qui émergent et qui prennent corps à travers des formes. Donc on a un certain nombre d'artistes qui ponctuent ce parcours, donc notamment Yvan Salomon qui travaille sur les zones portuaires depuis une trentaine d'années, qui réalise des grandes aquarelles qui sont de format tout à fait inhabituel. Et donc ces aquarelles, alors je le dis pour notre public aussi, les aquarelles vont changer. Tous les 6 mois, on va faire un nouvel accrochage de façon à montrer qu'il y a, cette partie contemporaine va beaucoup bouger. Mais d'ailleurs, globalement, globalement, l'exposition va vivre, elle aussi, dans cette forme de connectivité dont on parlait au départ. Ensuite, on a donné aussi la place à des partenariats locaux comme l'école d'architecture de Marseille, avec laquelle on a travaillé sur des cartes. Donc ils avaient un travail en cours, on avait un travail en cours, et on s'est retrouvés sur cette édition de cartes et sur ce mapping, ces cartes animées qui montrent vraiment la façon de Brodel, dont on part d'une géographie et comment cette géographie se construit et devient de la ville. Il y a eu aussi, on a rencontré aussi l'école d'architecture de Zurich qui nous a prêté cette magnifique maquette d'une parcelle du Caire. On a essayé de valoriser des fonds locaux comme le fonds communal qui avait passé un certain nombre de commandes photographiques sur le territoire euro-méditerranée pendant une vingtaine d'années, qui sont des commandes publiques à des grands artistes. On en montre un actuellement qui est Jodice. Nous allons montrer bientôt Cyril Wiener. Donc là aussi, il y aura des rotations autour de ce sujet-là. Et donc on va valoriser des fonds locaux. On avait vraiment essayé de coller à une actualité qui est celle aussi de notre territoire. Alors, les villes, on les a abordées. Bon, peut-être que je vais revenir sur la structure de la partie contemporaine. Donc, deux mégapoles, deux métropoles. Les deux mégapoles, Istanbul, Le Caire, qui nous montrent un peu les limites d'une forme d'urbanisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de ville qui, pour s'alimenter, parce qu'elle est tellement énorme, tellement tentaculaire, elle a tellement de flux de population entrant et sortant tous les jours, qu'il faut trouver de la ressource, et cette ressource, elle pompe le territoire. Et ça, Istanbul, c'est l'exemple typique d'une ville qui, tous les jours, assèche son territoire en eau, en ressources, etc. Donc ça pose les limites d'un modèle, quand même. Et ensuite, on a les phénomènes de métropolisation, qu'on connaît beaucoup plus de ce côté de la Méditerranée, et avec notre sœur jumelle à ce niveau-là, qui est Casablanca, et qui cherche aussi, d'une façon assez cohérente, à s'organiser, à raccrocher son urbanité en expansion depuis un certain nombre d'années avec les petites villes périphériques, justement en misant beaucoup sur son réseau de tramway. Donc nos quatre entités, elles ont à chaque fois une spécificité. Et cette spécificité, on l'aborde à travers des regards artistiques ou plutôt des regards plus architecturaux. Donc on alterne ces formes-là. Et enfin, pour Marseille, dont j'ai assez envie de parler, parce qu'il me semble que on colle à la fois non seulement une actualité de territoire, mais aussi une forme très nouvelle d'actualité artistique, c'est qu'on a travaillé avec des artistes marcheurs qui pour nous sont aussi des artistes chercheurs, puisqu'ils arpentent le territoire et du matériau de la ville et de ce nouveau genre qu'est la marche périurbaine émergent de nouvelles formes artistiques.
Est-ce que c'est ce qui se voit dans la mise en place du GR du GR 2013.
Tout à fait. Il s'agit d'eux qu'on a inventé. Alors il y avait une antériorité avec tout le travail qui avait été fait dans le cadre de Marseille-Provence 2013, qui a permis à cette forme d'émerger sous une forme plus codifiée qui est celle du sentier de randonnée, donc qui a donc un balisage, etc. Mais eux vont beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une association internationale qui regroupe un certain nombre de villes dans le monde. Ils ont en projet de nouveaux tracés. Et d'ailleurs nous allons montrer de nouveaux tracés qui ne sont pas encore faits aujourd'hui. Donc il y aura au moins un nouveau tracé. Ses parents. Et cette grande vitrine qu'on a voulu un peu comme un chemin en fin d'exposition, c'est aussi une manière de montrer qu'un chemin, ça se programme, ça se pense, ça se travaille sur une carte avec des points GPS, on est sur son ordinateur, etc. Mais quand on est sur le terrain, il y a des choses qui changent. Et cette actualité, ce rapport à une dimension très ethnologique, ethnographique, elle était aussi pour nous une façon de nous raccrocher à ce qu'est l'histoire du MUCEM, que nos ethnologues, ils vont sur les terrains, ils font des collectes, ils ramènent des éléments qui sont des éléments d'archives et qui deviennent soit des collections d'études, soit plus tard des collections tout court. Là, pour l'instant, on en est au stade, on va dire, archives ramenées, documents de travail, et eux-mêmes sont en train dans une phase de réflexion et de maturation de ce nouveau genre qui naît de la marche périurbaine.
Oui, ça rentre tout à fait dans le cadre de ce que nous disions tout à l'heure en introduction de la connectivité, des objectifs du MUCEM. Et on a là donc quelque chose qui est intéressant, puisque cette exposition est évolutive. Cette exposition est également créatrice de quelque chose.
Donc, et on essaye de coller, effectivement, on pourrait dire qu'on a un pied dans l'histoire, un pied dans le contemporain. Et ça, c'est un peu notre condition d'être humain. Dans... Mmh. On a toujours un pied dans une ou plusieurs histoires à la fois, ou dans l'histoire, la grande histoire, les petites histoires, et dans notre vie de tous les jours. Et on essaye de garder aussi un petit peu de distance pour donner des éléments de réflexion. Mais c'est clair qu'on est beaucoup plus en prise avec les objets, avec les œuvres, avec les photos. Mais ça, c'est normal, c'est la contemporanéité qui veut ça. Il ne faut pas en être effrayé, il faut juste se dire qu'il y a matière à réflexion, il n'y a pas forcément matière à tout comprendre. Rentrer dans une exposition et se dire « Ah mais oui, j'ai tout compris », eh bien, je pense qu'en fait, si on se dit ça, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose, mais qu'au contraire, le visiteur est invité à apporter sa pierre à l'interprétation qu'on peut faire de cette pensée très riche que nous apportent les artistes à travers les formes qu'ils produisent tous les jours.
Écoutez, il me reste qu'à vous remercier puisque notre temps est presque écoulé. Donc merci Myriam Morel de Ledal, merci Sylvia Amar Gonzalez. Vous étiez donc sur Radio Zinzine. Nous avons fait donc un entretien à propos de collectivité, l'exposition au MUCEM, qu'on vous invite bien évidemment à aller visiter, revisiter, puisque comme c'est une exposition évolutive, eh ben, il faut y aller une fois et y retourner une deuxième, une troisième, une quatrième fois pour voir comment les choses évoluent. Voilà, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Marie Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.